France Musique. Musicopolis. juin 1889, Londres. C'est le Novelty Theatre de Londres qui est le théâtre, en ce 9 juin 1889, d'une soirée au léger parfum de scandale. C'est en effet la première de La Maison de Poupée, la pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Une pièce qui a déjà acquis en Europe une réputation sulfureuse et qui fait réagir les foules en Suède et en Norvège. On a même demandé à l'auteur de changer la fin, jugé inacceptable pour une production allemande. À Londres, en cette soirée du 9 juin 1889, George Bernard Shaw, le critique et dramaturge, est présent pour la première de La Maison de Poupée. Shaw connaît bien la pièce pour l'avoir jouée lors de représentations privées. Il s'est fait inviter au dîner qui suit la première. Durant la soirée, il remarque une femme inconnue, un peu à l'écart, très calme, légèrement perdue dans cette assemblée et qui lui semble avoir quelque chose d'extrêmement raffiné. À la fin du dîner, tout le monde redescend et se retrouve sur la scène, dans le décor où s'est jouée la pièce. L'ambiance commence à se refroidir et les hôtes demandent à la cantonade si d'aventure quelqu'un pourrait jouer un petit quelque chose sur le piano de La Maison de Poupée. Personne ne se dévoue pour se mettre au piano, sauf la dame tranquille un peu à l'écart. Tout le monde s'attend à entendre un tube de salon bien mièvre et George Bernard Shaw, en particulier, se prépare au pire. Dans un élan d'altruisme, il se précipite même près du piano pour soutenir moralement la pauvre femme. Au bout de deux mesures, raconte George Bernard Shaw, j'étais debout. À la fin de la pièce, l'une de ses compositions, j'ai demandé « Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes l'une des plus grandes pianistes d'Europe ?» Évidemment, beaucoup de gens le lui avaient dit. Et sans tourner la tête, elle a déclaré « C'est mon métier, mais ce piano est vraiment mauvais. » Et elle a ajouté « Peut-être viendrez-vous m'entendre à la soirée du Philharmonique. Je dois y jouer le 5e concerto de Beethoven. » Thank you. Qui est donc cette pianiste professionnelle qui joue à Londres de manière informelle à la première de la Maison de Poupée, avant de se produire en grande pompe avec l'Orchestre Philharmonique dans le 5e concerto de Beethoven? Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, tout comme il ne disait rien d'abord à George Bernard Shaw en cette soirée de 1889. Il est temps que je vous le révèle, c'est notre héroïne du jour, Agathe Backer Grøndahl, pianiste et compositrice norvégienne. Il faut que je vous avoue tout de même que Shaw n'a pas révélé dans son article ce que notre musicienne avait joué et qui l'avait si fortement impressionné. Mais il se pourrait très bien que ce soit l'une de ses études, opus 11 ou opus 22, des pièces assez récentes et qui sans aucun doute mettaient particulièrement leur auteur en valeur. Je vous ai fait entendre la troisième et dernière étude de l'opus 22, composée en 1888. La deuxième du même recueil se caractérise par un mouvement perpétuel qui lui a valu le titre descriptif de « Au rouet ». Agathe Backer Grøndahl est à Londres pour y donner quelques concerts et George Bernard Shaw a l'occasion de la rencontrer à nouveau. Il se rend chez elle dans l'appartement qu'elle a loué près de Regent's Park. Il va en rendre compte, bien sûr, quelques jours plus tard, dans un article du journal The Star. On remarquera que lorsque George Bernard Shaw parle d'Agathe Backer Grøndahl, il s'attarde sur des traits qu'il ne songerait certainement pas à évoquer s'il parlait d'un compositeur homme. Il la décrit comme une femme d'une quarantaine d'années qui a atteint la pleine maturité de son génie. Elle a les cheveux cendrés, un teint plutôt norvégien, des yeux mémorables, un front noble et surtout une grâce qui est le secret de son charme. Thank you. George Bernard Shaw n'a pas eu la chance d'entendre Agathe Backer-Grundahl dans son cheval de bataille, le concerto pour piano de Grieg. Pour la simple raison que Shaw n'aime pas la musique de Grieg. Il ne perd pas une occasion de manier l'ironie à son propos, estimant que le compositeur norvégien n'est à l'aise que dans des petites pièces de genre, certes charmantes, mais assez communes. Lorsque Shaw a entendu la musique de scène pour le père Gunt d'Ibsen, il l'a jugée infantile. C'est donc tout à fait logiquement que lors du concert de Backer-Grundahl avec le Philharmonique, Shaw a quitté la salle avant le début du concerto, alors inconnu. Les critiques anglais, tout comme les Français et les Scandinaves, sont extrêmement laudatifs sur le talent de pianiste d'Agathe Backer-Grundahl, qu'on apprécie au point de la comparer à Anton Rubinstein, à Hans von Bülow ou à Clara Schumann. On célèbre son jeu poétique et clair, sa forte personnalité artistique. Elle domine totalement son instrument. Pourtant, à en croire l'un de ses fils, devenu pianiste lui aussi, donner des concerts était pour elle une épreuve. Puisqu'elle souffrait terriblement du trac. Avant son entrée en scène, il ne fallait surtout pas lui parler ni la déranger. Elle se concentrait sur sa musique avec une exigence de perfection. Néanmoins, elle s'est produite très souvent, en récital, avec orchestre, en musique de chambre ou en duo, chant et piano, en particulier dans ses œuvres. Sätta nu där på det svajande strå Sommarfulle män Jag vill inte skrämma dig Vill bara nå dig Vill bara få dig Vill bara gömma dig Där hade jag dig nästan Och så fjöj du din väg Sommarfulle män Med vingarna fina röda och bruna skrämme dig vill bara nå dig vill bara få dig vill bara gömme dig Agathe Backer-Grøndahl a formé un duo très apprécié avec Nina Grieg, l'épouse d'Edvard. Toutes les deux, elles ont beaucoup chanté la musique de Grieg et bien sûr celle d'Agathe elle-même, très souvent dédiée à Nina. Agathe Backer-Grøndahl a composé un grand nombre de mélodies, dont certaines sont devenues des tubes, comme ce « Mot Kveld », le soir tombe, dans lequel on entend sa grande facilité mélodique et le délicat entrelac pianistique dont elle entoure le chant. Cette amitié avec Nina et Edvard Grieg a été à l'origine de son voyage à Londres. C'est Grieg lui-même qui a convaincu la Société Philharmonique de la faire venir en vantant l'excellence de son jeu et de sa musicalité. Pourtant, malgré ses quelques voyages et ses succès comme interprète, la vie de Backer-Grøndahl s'est déroulée de manière assez confinée. Après des études à Christiania, capitale de la Norvège, ses parents, d'abord hostiles à ce qu'elle envisage une carrière musicale, ont finalement bien voulu l'envoyer à 17 ans étudier à Berlin, où elle a travaillé le piano et la composition. Puis, toute jeune encore, elle est allée jusqu'à Florence, recevoir les leçons de Hans von Bülow, avant de passer quelque temps à Weimar pour assister aux masterclass de Liszt. Le maître apprécie les talents de compositrice de la jeune fille qui s'essaye à des œuvres pour piano et orchestre. Dès son retour en Norvège, Agathe Backer va se faire une place comme pianiste, notamment grâce à Grieg, qui l'a fait jouer dans de nombreux concerts qu'il programme. Elle sera très applaudie, en particulier dans le 5e concerto de Beethoven et dans celui de Grieg. En 1875, à 28 ans, après de longues fiançailles, elle se marie avec un monsieur Gröndahl, musicien lui aussi, chanteur et chef de chœur. C'est là que sa vie sera plus confinée. Ils auront trois fils et la vie d'Agathe va être très occupée, d'autant plus qu'elle accompagne souvent le chœur de son mari et qu'elle fait beaucoup pour développer la vie musicale assez pauvre de Christiania. Elle se confie à Georges Bernard Shaw lorsqu'il l'interroge à Londres en 1889. Elle compose, dit-elle, dans le calme du soir, lorsque le travail de la journée est accompli, et plus encore durant les soirées de décembre, lorsque le travail de l'année est accompli. « Quel travail ?» demande Shaw, étonné. « Oh, toutes les choses qu'il faut faire, » répond-elle, « les tâches domestiques, les enfants, le travail de l'instrument, les trois leçons que je donne chaque jour. » Shaw se dresse, en colère, contre cette maison, ses enfants, ses élèves, qui phagocytent tous ces précieux instants qui devraient être dévolus à l'humanité. Mais, ajoute-t-elle en choisissant ses mots soigneusement, « c'est en étant une mère et une épouse que j'acquiers l'expérience qui fait de moi une artiste. » Fin de sa vie, Agathe Backer-Gröndahl semblera moins satisfaite de son expérience en tant que créatrice qui doit assumer aussi les charges de la famille et de la maison dans une ville assez provinciale. Elle écrit à son fils « Quand je réfléchis à tout ce que j'aurais pu accomplir si je n'avais pas vécu dans cette condition étroite et sous-développée, je me sens remplie de tristesse. Ce ne sont que des petites choses. » En effet, elle s'est finalement conformée à ce qu'on attendait alors d'une femme, épouse et mère, écrivant des petites pièces destinées à des jeunes filles et à des femmes, épouses et mères. Opus 22, numéro 1, d'Agathe Backer-Gröndahl, joué par Geir Henning Braten. Tout le programme et la réécoute sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour surtout ne pas louper une seule de nos passionnantes émissions. Et pour nous écrire, vous avez juste à cliquer sur l'onglet « Contact ». Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Delphine Baudet pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.